Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Aujourd'hui, le jeu est considéré comme un loisir pour un Français sur deux. Un loisir toujours pas comme les autres. Toutefois, pardon, pas comme les autres. L'Observatoire des jeux estime à 1 200 000 les joueurs pouvant présenter un signe d'addiction. Les études récentes en France montrent également que le nombre de personnes qui jouent et les sommes jouées sont de plus en plus importants, notamment depuis le développement de l'offre des jeux en ligne. L'addiction aux jeux d'argent et de hasard n'est reconnue que depuis 2014, mais doit être considérée au même titre que les autres addictions. En effet, ses répercussions en termes de dommages sociaux, familiaux, économiques et professionnels sont très importants et similaires à l'alcool et aux drogues. Alors comment éviter de perdre le contrôle? Comment réussir à ce que le jeu reste un loisir et non une dépendance avec ses conséquences? À qui en parler? Quels sont les accompagnements proposés? Nous en parlons ce matin avec notre invité qui est le docteur Marc Valeur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Docteur, vous êtes médecin psychiatre et chef de l'hôpital Marmottan, c'est à Paris. Vous êtes spécialiste en addictologie. Merci de nous rejoindre. On va commencer avec ce chiffre qui donne quand même le tournis. Les Français dépensent chaque jour 96 millions d'euros en jeux divers et variés. C'est un chiffre qui est plutôt impressionnant, docteur.
Oui, le jeu est une industrie qui résiste à peu près à toutes les crises. On peut dire que même dans les moments où économiquement ça ne va pas très bien, le besoin de rêver, le besoin de s'imaginer qu'on peut magiquement s'en sortir est toujours là. Donc c'est quelque chose qui résiste à la crise. C'est plutôt, cela dit, une bonne chose. Plus de la moitié des Français jouent au moins une fois par an.
Oui.
Et parmi eux, on estime à un peu plus de 1% les personnes qui ont des problèmes avec le jeu. Donc pour l'immense majorité des gens, on peut dire que c'est quand même un loisir. Ça reste quand même un loisir.
Alors est-ce que lorsque l'on est addict au jeu, est-ce qu'on peut s'en sortir?
Évidemment, évidemment. Heureusement que les spécialistes ne rament pas tout le temps sur le sable et que on travaille quand même avec des résultats. Et même, on peut dire que le jeu est une addiction, indéniablement, au même titre que l'alcool, le tabac ou les drogues, mais que c'est une addiction dont on se sort plutôt plus facilement que si on est dépendant de l'héroïne, du crack, si on est un grand marginal dépendant durant des années. Donc oui, ça peut être considéré pour certaines personnes comme une maladie, mais il y a des solutions, on peut être pris en charge.
Alors nous nous sommes rendus dans un bureau de tabac pour recueillir des témoignages de personnes qui jouent régulièrement. On les écoute et on se retrouve juste après, docteur.
Je joue aux courses, j'ai commencé à jouer le trot en 1955. Ça fait 63 ans.
Ouais, ça m'arrive de gagner.
Celui qui rentre au PMI, c'est mieux de même pas regarder l'écran. Il faut pas jouer les gars au PMI, vous allez perdre votre vie. Votre vie, vous allez la perdre si vous jouez au PMI. La famille, tout, les amis, tout. Il n'y a rien.
Non, 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 j'ai jamais beaucoup dépensé. Hein. Non, non, jamais. J'étais pas un gros joueur, j'étais un joueur moyen.
Et mon salaire, il part en 10 jours. En 10 jours, tu comprends rien du tout. Tu n'as même pas fait les vacances. Et tout le monde ici, ils ne veulent pas parler. Tout, c'est la même.
Oh non, oh, 30 euros, 40 euros, qu'on n'a pas les moyens. Hein. On dépense ça, c'est beaucoup. Hein.
Le maximum que je mets sur un choix, c'était 800 francs, qui représenterait maintenant à peu près 150 euros.
Ouais, ouais, c'est un mauvais vice. Bon, il y a beaucoup de déceptions là-dedans. Et oui, pour moi, c'est comme si c'est la drogue. Hein. Et comme on a l'habitude de prendre la drogue, si on peut pas prendre la drogue, on n'est pas bien, quoi. Eh bien, c'est pareil les courses pour moi. Hein. C'est mon avis à moi. C'est pareil pour les courses. Et si je n'ai pas joué, c'est que je n'ai pas d'argent, mais je joue souvent.
Alors, il y a beaucoup de mots-clés hein, dans ce micro-trottoir, drogue, vice, déception. Ce sont des mots-clés que vous entendez régulièrement, je suppose, docteur, quand on parle d'addiction aux jeux de hasard.
Oui, absolument. Et on voit bien la difficulté à garder le contrôle, la facilité à déraper. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est la difficulté à en parler. Là, c'est assez remarquable que les gens en parlent aussi facilement, parce que souvent, pour les joueurs eux-mêmes, c'est plus un vice qu'une maladie et ils ont souvent, ils dépensent beaucoup d'énergie à masquer ça à leur entourage, à ne pas en parler et il ne leur vient pas l'idée de demander de l'aide. Ils ne pensent pas que c'est quelque chose qui relève éventuellement de la médecine et ça c'est très dommage parce qu'il y a maintenant suffisamment de personnes formées aux jeux pathologiques qui seraient susceptibles de les aider.
Alors à partir de quand parle-t-on d'addiction dans le cas des jeux d'argent ?
L'addiction, quelle qu'elle soit, commence au moment où la personne concernée elle-même, en l'occurrence le joueur, voudrait arrêter sa conduite et n'y parvient pas tout seul. C'est ça la définition de l'addiction. Dans le cas du jeu, ce moment arrive souvent très tard, parce que très longtemps, les joueurs vont avoir l'idée magique qu'il faut gagner pour se refaire. Et cette idée de se refaire, ça retarde le moment où on réalise qu'on est en train de chercher la solution à l'intérieur du problème. Le jouer, continuer à jouer quand on a perdu, quand on a trop perdu et quand on a perdu de l'argent qu'on n'avait pas, c'est chercher la solution à l'intérieur du problème et c'est aggraver le problème tout en croyant magiquement pouvoir le résoudre.
Alors, quelles sont les personnes les plus touchées ? Est-ce qu'il y a un profil particulier ?
On pourrait dire qu'il y a plusieurs profils de joueurs qui sont liés aux motivations pour le jeu. Les deux grands profils de joueurs excessifs, c'est d'un côté les joueurs impulsifs. Là, on va avoir plutôt des jeunes, plutôt des hommes qui vont jouer au poker, au pronostic sportif, au pronostic hippique, qui aiment les sensations fortes, qui vont jouer pour la sensation, pour les idées grandioses, etc. Et de l'autre côté, il va y avoir des joueurs par automédication, des gens qui sont déprimés, qui sont anxieux, qui se sentent mal dans leur peau et qui vont jouer à la fois pour oublier, pour apaiser leur souffrance et en même temps pour magiquement, comme si on faisait une prière, espérer que tout va s'arranger d'une manière un peu magique. Et ceux-là vont jouer plus aux machines à sous, à des jeux de hasard pur. Parmi les gens qui nous écoutent, on connaît beaucoup d'immigrés qui vont jouer pour plusieurs raisons à la fois. D'abord parce que ça peut faire un lieu communautaire, un lieu où on se retrouve, un lieu où on va partager les mêmes rêves, où on va pouvoir parler du pays, des difficultés de la vie, etc. Et parmi ceux-là, certains vont déraper parce que on ne sait pas trop quand on arrive au bout d'un certain nombre d'années.
Mettez-vous en face du micro, excusez-moi.
Oui, pardon, oui. On ne sait pas trop au bout d'un certain nombre d'années comment faire pour préparer sa retraite, par exemple. Est-ce qu'il faut investir dans le logement en France ? Est-ce qu'il faut investir dans la famille, au pays lointain, etc. Et une manière de s'en sortir, c'est de jouer en rêvant qu'on gagne et qu'on peut faire les deux. Comme ça, on aura tellement gagné qu'on pourra à la fois investir au pays et investir en France, etc. Et la réalité, c'est qu'on perd tellement d'argent qu'on peut faire ni l'un ni l'autre, ce qui est une autre solution. C'est finalement une solution un peu désespérée qui est sous-tendue par le rêve de fortune.
C'est-à-dire, moins on a d'argent et plus on va être tenté de jouer. Est-ce qu'on joue autant dans les différentes classes sociales ? Alors, j'ai vu que les cadres supérieurs étaient ceux qui jouaient le moins.
Oui, tout le monde joue. Et dans les classes supérieures, on a quelques cas de personnes qui jouent des fortunes dans les casinos, dans des parties de poker, etc.
Oui.
Mais évidemment, les problèmes surgissent beaucoup plus vite quand on a peu de moyens. Moins on a de moyens, plus on se ruine facilement. Et c'est bien le problème, c'est que quand on est RMiste ou chômeur, les problèmes arrivent très très vite. Très, très vite.
Alors parlons également du cas des mineurs, puisqu'ils sont tentés également à jouer aux jeux en ligne, paris sportifs, paris hippiques, cercles de jeux, poker, qui touchent, donc ça touche ces mineurs qui ne peuvent pas jouer, puisqu'on ne peut pas jouer en France lorsque l'on a moins de 18 ans.
Oui, alors depuis 2006, le jeu est interdit aux mineurs, c'est-à-dire que la vente de jeux est interdite. Aux mineurs, heureusement, on ne pénalise pas l'usage. On interdit de vendre du jeu aux mineurs. Et si on veut jouer en ligne, il faut donner son identité, etc. Mais beaucoup réussissent à jouer. Toutes les statistiques le montrent. Dans tous les pays, y compris dans les pays où le jeu est interdit aux mineurs, les mineurs jouent énormément parce que c'est une période, l'adolescence, où on cherche ses limites, où on a besoin de prendre des risques, où on a un goût pour le risque et pour la transgression. Le fait que ce soit interdit, d'une certaine manière, ça rend les choses encore plus attirantes. Et il faut dire que la frontière entre ce qui est permis et interdit est très difficile à savoir. Dans certains cas, on sait que Internet est saturé d'offres de jeux illégales, où on va proposer des machines à sous, ce qui est interdit, où il y a des tas de sites qui ne sont pas du tout agréés, qui proposent des jeux, et les mineurs sont des cibles pour ces sites-là. Il faut les mettre en garde, parce que la plupart de ces sites sont des arnaques, sont des choses extrêmement dangereuses, où on peut tout à fait miser tout l'argent qu'on veut, mais on n'en gagne jamais.
Au téléphone, c'est Marcus qui nous rejoint. Bonjour Marcus, merci de nous rejoindre. Alors vous dites, je joue au loto, à l'euro-million, mais quelques euros à chaque fois. Est-ce qu'on peut considérer cela comme une addiction? Bonjour Marcus.
Bonjour Aïssa, bonjour.
Bonjour monsieur.
Alors on va aller très vite Marcus, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors c'est la question de Marcus, hein, docteur. Je joue au loto, à l'euro-million, mais quelques euros à chaque fois. Est-ce qu'on peut considérer que je suis addict?
Non. Beaucoup de personnes sont entre guillemets dépendantes de l'euro-million ou du loto, parce que c'est un rituel, parce que c'est quelque chose dont ils ne peuvent pas se passer. Mais on est vraiment là devant un jeu de rêve. Le but de l'euro-million, c'est de se faire ce film, toujours le même Spielberg, tout ce que je ferai une fois que je serai devenu milliardaire, comment je pourrais envoyer chier mon patron, comment je pourrais donner de l'argent à ceux que j'aime dans ma
tout
famille et ne pas
en donner.
Voilà, c'est un rêve très partagé, mais ça ne donne pas lieu à addiction. On ne voit pratiquement pas de personnes qui sont addictes, qui se ruinent pour jouer à l'euro-million, parce que le rêve suffit. On voit même des personnes qui oublient d'aller voir les résultats. Une fois qu'ils ont bien rêvé, ça leur a suffi. Ils ne se font pas trop d'illusions. Non, les jeux qui sont addictifs, c'est des jeux à fréquence rapide, comme les machines à sous, ça peut
grattage.
Être les cartes à gratter, ça peut être le Rapido Amigo, ça peut être ce genre de jeu, le PMU, et les jeux de sensations fortes comme le PMU, les courses de chevaux, les pronostics sportifs, c'est ça qui pose problème.
Voilà Marcus.
Allô.
Oui.
Oui, bon, en fin de compte, l'addiction aux jeux, c'est-à-dire quand les gens utilisent leur carte de crédit, et je pense que c'est là qu'il y a un problème, parce qu'on pense que c'est un problème, mais on a quand même le problème, comme a dit l'invité.
Oui, docteur.
Tout à fait. Le crédit est un vrai problème. Théoriquement, on n'a pas le droit de jouer à crédit, on n'a pas le droit de faire crédit à quelqu'un pour qu'il joue. Les chèques sans provision sont un problème, parce que le drame, c'est quand on commence à jouer de l'argent qu'on n'a pas.
Ouais.
C'est là qu'on commence à creuser des dettes d'une manière qui peut devenir irréversible. Et le jeu est une cause majeure de surendettement. Et c'est à partir du surendettement que les joueurs se retrouvent pris dans un cercle vicieux dont il est très difficile de sortir.
Alors, au téléphone, c'est Ousmane. Merci de nous rejoindre, Ousmane. Bonjour et bienvenue. Alors, vous dites, pourquoi dit-on l'argent appelle l'argent? Pourquoi dit-on heureux en jeu, malheureux en amour?
C'est une très, très, très vieille formule, et on peut supposer que les personnes qui sont suffisamment heureuses en amour, qui ont suffisamment de succès dans la vie, n'ont pas besoin de chercher des compensations dans le jeu. On pourrait dire
que... Comme vous en rêvez, c'est ça?
Et voilà, plus la réalité est bonne, moins on a besoin de compenser en rêvant. Cela dit, traditionnellement, de manière très ancienne, depuis le Moyen-Âge, on décrit la passion du jeu comme une passion comparable à la passion amoureuse et qui est bien sûr concurrente de la passion amoureuse. C'est dramatique pour un conjoint, pour quelqu'un qui est amoureux d'un joueur ou d'une joueuse, de voir l'autre complètement absorbé là-dedans, et ça donne des drames familiaux, des drames de couple, comme on peut le voir avec l'alcool, par exemple.
Ousmane ?
Oui. Oui, vous m'entendez?
Oui, vous avez entendu la réponse du docteur?
Ouais. Mais la deuxième réflexion, là, l'argent appelle l'argent. Est-il contre, le professeur?
L'idée que l'argent appelle l'argent, ben malheureusement, c'est évidemment vrai. Il vaut mieux être riche si on veut gagner de l'argent, et les pauvres ont beaucoup moins de chances que les riches de continuer à gagner de l'argent. C'est bien une des fonctions du jeu, c'est de rendre imaginable l'idée de devenir riche avec peu de choses. L'idée de miser 2 euros sur 1 euro million et de devenir milliardaire, c'est ce qui compense d'une manière imaginaire cette injustice sociale qui est omniprésente. Bien sûr, le capitalisme est basé sur le fait que l'argent fabrique de l'argent, parfois malheureusement plus que le travail.
Merci Ousmane pour votre appel, merci beaucoup. À très bientôt. Alors justement, nous allons écouter à présent le témoignage, et pas des moindres, le témoignage du maire du Kremlin-Bicêtre qui a eu des problèmes d'addictologie au jeu. On l'écoute et on se retrouve juste après.
J'ai commencé à jouer en fait au PMU dans un esprit familial au départ, les dimanches, voilà, de manière totalement de loisir. Et ça a été en fait un enchaînement où on est pris en fait dans la spirale du jeu. Je pouvais jouer des fois 200 euros, 300 euros par jour. Mais à un moment donné, c'est plus du tout l'appât du gain, c'est juste l'envie de jouer qui devient en fait un espace de loisir, un espace de liberté, forme de jouissance en fait de la gagne. La famille n'était absolument pas du tout au courant. J'ai arrêté pour un événement personnel qui est intervenu, une journée où j'ai pas eu l'occasion de jouer et qui m'a d'un seul coup ouvert les yeux sur le fait que je pouvais vivre en fait sans jouer. Et j'ai complètement arrêté du jour au lendemain. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de pouvoir être hospitalisé, non pas dans un premier temps pour l'addiction, mais plus particulièrement pour une forme de burn-out, et qui m'a emmené en fait dans un service spécialisé au nord de Paris. Ce service avait aussi pour fonction de soigner en fait les personnes qui étaient sous forme d'addiction. Donc moi j'étais dans une situation un peu particulière parce que mon addiction je l'avais stoppée depuis un an et ça m'a permis en fait de rencontrer aussi des personnes et on voit que c'est une vraie maladie qui touche tous les milieux socio-professionnels, toutes les catégories d'âge et je pense que encore une fois on peut s'en sortir. D'un point de vue médical, avec un suivi, avec une volonté personnelle. Et je pense que le meilleur message de prévention, c'est d'écouter la petite lumière qu'on a en soi à un moment donné, qui éveille un doute et sur lequel il faut immédiatement la saisir pour se faire accompagner. Ce que je n'ai pas su faire en temps et en heure à l'époque, mais aujourd'hui, voilà, les choses sont guéries.
Voilà, après ce témoignage de Jean-Marc Nicole, qui est maire du Kremlin-Bicêtre, qu'est-ce que ça vous évoque, ce témoignage?
Je crois qu'il faut remercier cette personne de ce témoignage, parce que c'est très courageux. Très souvent, les joueurs ont honte, pensent que c'est un vice et n'osent pas en parler. Il dit d'ailleurs lui-même qu'il dépensait 100, 200, 300 euros par jour et que tout son entourage n'était pas au courant. C'est-à-dire qu'il faut quand même masquer les choses à son entourage, mentir, etc. Mais il faut, quand on s'aperçoit que c'est un problème, le plus tôt possible, réussir à en parler à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de l'entourage, ça peut être son médecin traitant. Il ne faut surtout pas garder ça pour soi et essayer de résoudre les problèmes tout seul, parce que la solitude est vraiment une des conséquences dramatiques de l'addiction. C'est une des premières conséquences de l'addiction. Et l'isolement va aller en croissant au fur et à mesure qu'on va mentir, qu'on va espérer qu'on va s'en sortir, qu'on va mentir pour emprunter de l'argent, etc. On va être de plus en plus seul. Et la conséquence est bien sûr la dépression. Et le jeu excessif peut être une cause de dépression et de suicide. Donc...
Alors, dites-nous à présent, docteur, les signes inquiétants qui doivent conduire à consulter. Dites-nous un petit peu...
Je pense que les joueurs eux-mêmes le savent, les signes inquiétants, c'est quand on est hanté par l'idée d'une dette qu'on ne va pas pouvoir rembourser, quand on commence à faire des cauchemars de jeu, quand on commence à rêver de jeu pendant la nuit, quand on se réveille en pensant au jeu, quand c'est en train de dévorer toute l'existence et qu'il n'y a plus de place pour les relations affectives, sociales, que le jeu est en train de tout dévorer. On le sait, comme un alcoolique sait qu'il devient dépendant de la bouteille, qu'il n'y a plus que ça qui compte, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir le courage de regarder les choses en face et de se dire, c'est en train de devenir un problème, il faut que j'en parle. il faut que j'en parle. Et il faut en parler autour de soi et il faut éventuellement en parler à un médecin. Et on peut assez facilement maintenant consulter dans un centre spécialisé.
Alors justement, quelles sont ces aides et ces accompagnements? Qu'est-ce qui est proposé aux personnes qui viennent vers vous?
Ben, quand on reçoit les gens, on fait le point avec eux sur leur situation, pas uniquement sur leur situation financière, sur qu'est-ce qui les amène là, qu'est-ce qui va pas dans la vie et comment on peut faire et quels objectifs on peut se fixer. Beaucoup de personnes, par exemple, ne veulent pas arrêter de jouer, mais veulent avoir une aide pour réussir à jouer en contrôlant, en maîtrisant le jeu, et ça peut être tout à fait un objectif acceptable. On n'est pas là pour interdire le jeu, on n'est pas là forcément pour mettre fin à la chose, mais on peut conseiller, aider, accompagner pour éviter les excès, les dérapages, etc. Et beaucoup de personnes, avec quelques conseils, avec un peu de recul, en sachant qu'il y a un endroit où ils peuvent venir parler, modifient très vite leur relation au jeu.
Il y a également les centres de soins d'accompagnement en addictologie où on peut se rendre, docteur?
Oui, l'EXAPA, c'est-à-dire les centres de soins et d'accompagnement et de prévention des addictions qui existent dans tous les départements, sont maintenant de plus en plus des EXAPA généralistes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre dans le même lieu des personnes qui ont des problèmes d'alcool ou des problèmes de drogue ou des problèmes de tabac, mais aussi des problèmes de jeu. Donc le centre Marmottan en est un exemple, mais il y a d'autres centres hospitaliers qui sont spécialisés et puis il y a des centres d'accueil un peu partout. Il y en a plusieurs à Paris et en région parisienne.
Au téléphone, c'est Drissa qui nous rejoint. Bonjour Drissa.
Bonjour Atta. Bonjour.
Bienvenue. Allez-y rapidement, on arrive à la fin de l'émission. Allez-y, on vous écoute.
Oui, ma question est-ce que c'est accro au jeu, est-ce que c'est une maladie?
C'est considéré comme une maladie depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, depuis la Renaissance, on en parle comme d'une maladie. Depuis 1980, c'est dans les manuels internationaux des maladies et depuis quelques années, c'est dans une catégorie d'addiction sur le même plan que les problèmes d'alcool ou les problèmes de drogue dans les manuels de maladies internationaux, que ce soit américains ou de l'OMS. Donc officiellement, oui, c'est une maladie. Cela dit, c'est une maladie particulière, comme toutes les addictions, c'est surtout une maladie subjective, c'est-à-dire que la personne se sent elle-même malade parce qu'elle est aux prises avec quelque chose qu'elle ne contrôle plus et qui lui échappe. C'est ça le sens de la maladie.
Voilà, Drissa.
Est-ce que ça peut, être une maladie héréditaire?
Est-ce que oui, c'est une très bonne question.
Héréditaire est un mot beaucoup trop fort. Par contre, familial, oui. On entendait le témoignage du maire de Cablamissas. Il dit qu'il a commencé dans une ambiance familiale et très souvent on retrouve chez les joueurs le fait que leurs parents jouaient, qu'ils ont été habitués au jeu dès l'enfance et la part culturelle est extrêmement importante. Oui.
Voilà, Drissa.
Okay.
Merci à vous pour votre appel. À très bientôt. Alors, quelques informations utiles. Le site Joueur Info Service, c'est www.joueur-info-service.fr. Si vous êtes concerné directement ou indirectement par une pratique de jeu problématique, n'hésitez pas à appeler Joueur Info Service. C'est au 09 74 75 13 13 de 8h à 2h du matin. L'appel est non surtaxé. Et puis les centres d'accompagnement également et l'hôpital Marmottan, centre de soins et d'accompagnement des pratiques addictives. C'est dans le 17e arrondissement de Paris. L'hôpital répond 01 56 68 70 30. 01 56 68 70 30. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, docteur Marc Valeur, pour terminer? Qu'est-ce qu'on devrait retenir de cette émission?
Que le jeu peut éventuellement être un problème et que dès qu'on pense que ça commence à être un problème, il faut réussir à en parler. Il faut en parler autour de soi, il faut en parler à des amis, il faut éventuellement en parler à des médecins. Ça n'est pas du tout la fin du monde, mais il ne faut pas s'enfermer dans la solitude. C'est ça le message le plus important.
Merci beaucoup de vous être rendu disponible. Merci d'avoir fait le déplacement. À très bientôt, docteur, dans un instant. À la pause publicitaire, je vous rappelle qu'on retrouvera Fanny exceptionnellement et vous pourrez lui poser toutes vos questions au standard de la radio africaine tout à l'heure à 11h au 01 55 07 58 00. C'est la pause. On se retrouve pour la suite d'Ambiance Africa juste après. Bougez pas.
Oh là 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 là.